Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Percée de la Chine, intensification de la rivalité sino-américaine, montée de la géoéconomie, crise du multilatéralisme, la Covid-19 a révélé et amplifié un certain nombre de tendances géopolitiques préexistantes et peut-être aussi ouvert un nouvel horizon à l'Union européenne, à en juger l'accord intervenu cette semaine, donnant le feu vert à un gigantesque plan de relance, accord dont l'importance n'est pas tant dans l'ampleur des montants mobilisés que dans son principe qui instaure une forme de solidarité financière inédite entre les 27, étape essentielle vers une Europe plus fédérale, davantage intégrée. La revanche de l'Europe, point d'interrogation, regard sur les marges de manœuvre de la France dans cette nouvelle normalité avec nos invités. Michel Duclos, ancien ambassadeur et conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur d'une note intitulée « Un virus clarificateur, l'impact du Covid-19 sur la politique étrangère de la France ». Bonjour.
Bonjour madame.
Et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « L'épreuve de la faiblesse », un ouvrage consacré aux conséquences de la pandémie mis sur la géopolitique mondiale, paru chez Gallimard. Bonjour.
Bonjour.
Les dégâts provoqués par la pandémie de Covid-19 a fait craindre un moment qui aurait pu déboucher sur une désagrégation de l'Union européenne. On peut rappeler que les débuts de la pandémie ont été difficiles, avec une réaction en ordre dispersé aux défis posés par la crise sanitaire. Finalement, les États membres ont été capables d'un sursaut. Est-ce que vous êtes rassuré quant à la vitalité du projet européen sur la base de cet accord, ou bien est-ce que cet accord finalement n'est que l'arbre qui peut cacher la forêt, Michel Duclos ?
Rassurer, ce serait peut-être excessif, bien sûr, mais il faut constater que dans l'océan de mauvaises nouvelles et de conséquences probablement très dramatiques et qui ne font que commencer, il faut bien l'avoir en tête, de la Covid-19, cette réaction de l'Europe est une des rares bonnes nouvelles. Mmh. Et comme vous l'avez indiqué, les débuts étaient un peu lents, chaotiques, parfois mal inspirés. Mais en réalité, sur le plan financier et budgétaire, les bonnes réponses ont été apportées assez tôt par Francfort et par Bruxelles, par la BCE et par la Commission. Puis, il y a ce plan de relance qui résulte en partie d'une initiative franco-allemande. Mmh. Et là, effectivement, c'est assez novateur sur le plan de la technique communautaire, avec notamment la capacité d'endettement de la Commission. Mais surtout, pour moi, c'est ça le grand message. L'Europe trouve enfin un visage ou même une carte d'identité compréhensible pour les opinions. Mmh. Avant, on parlait de budget ou on parlait de projets plus ou moins fumeux. Là, les opinions peuvent comprendre que c'est par l'Europe que passe la reconstruction économique et sociale de beaucoup de pays en Europe.
Donc, d'une certaine manière, un moment historique que cette émission d'une dette européenne, parce que, comme vient de le dire Michel Duclos, Bruno Tertrais, eh bien, ça répond aux attentes des Européens qui souhaitent une solution européenne aux défis économiques et géopolitiques qui nous menacent.
Oui, même si je ne suis pas sûr que les citoyens européens créditeront l'Europe, créditeront Bruxelles de la manière dont, on l'espère, ils se sortiront progressivement de cette crise dans les mois qui viennent. Vous savez très bien que dès qu'on revient dans les capitales nationales, on s'empresse de dire « j'ai obtenu de l'Union européenne, j'ai obtenu mes partenaires ». Donc je ne suis pas sûr que ça change énormément l'image de l'Europe. En revanche, moi vous nous avez demandé si nous étions rassurés. Mmh. Moi, je n'étais pas inquiet. Mmh. Je n'étais pas inquiet parce que le constat historique, il est assez simple. C'est que, d'abord, l'Europe surmonte les grandes crises. Mmh. Rappelez-vous ce que l'on disait à propos de la crise de l'euro. Moi, j'ai gagné quelques paris avec des amis ou des collègues britanniques ou américains qui me certifiaient que c'était la fin de l'euro. On disait même en France parfois que l'Allemagne allait sortir de l'euro, ce qui me semblait absurde. Pourquoi ? Parce que c'est sous-estimer la force de l'engagement des grands leaders européens sur le projet européen. C'est sous-estimer le fait que l'Europe n'avance que dans les crises, justement. On le dit, il faut encore le répéter, c'est encore une magistrale démonstration du fait que l'Europe n'avance que dans les crises. Magistrale démonstration, enfin, du fait que le couple franco-allemand, donné pour mort à des dizaines de reprises depuis plusieurs dizaines d'années, non seulement vit encore, mais est toujours indispensable. Après, il ne faut pas non plus avoir une vision uniquement rose de cet accord. Nous savons tous qu'il y a eu des compromis, ce qui est normal. Ces compromis sont parfois douloureux sur le budget, sur les dépenses de l'Union européenne. Il y a un certain nombre de choses qui vont souffrir.
La défense en particulier, je souhaitais qu'on en revienne un petit peu plus tard.
On en parlera. Et puis, dernier élément quand même, ça a montré aussi que les divisions de l'Europe ne sont pas toujours les mêmes. À savoir que là, le camp qui était le plus réticent aux propositions franco-allemandes, c'était pas... On n'a pas vu l'Europe de l'Est contre l'Europe de l'Ouest, comme on a vu très souvent ces dernières années pour tout un tas de raisons, même si c'est simplificateur et un peu grossier, mais c'était un éventail de pays plutôt du Nord, c'est vrai, des pays qu'on disait frugaux contre les autres, mais c'était une division probablement conjoncturelle de l'Europe, et ça montre que justement, et là aussi c'est plutôt un signe d'optimisme pour moi, c'est le fait qu'on n'a pas cette division un peu structurante entre pays nationalistes de l'Est et pays tendance plus fédérale ou confédérale de l'autre. Donc voilà, oui, c'est plutôt un bon accord, mais il ne faut pas non plus le porter au nu, mais en tout cas, je pense qu'Emmanuel Macron a joué vraiment un rôle majeur. Il faut saluer la performance. Peut-être qu'on critiquera d'autres aspects de sa diplomatie, mais moi, je salue vraiment la performance de l'artiste au sens de négociateur.
Alors, beaucoup de choses par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Les crises font avancer l'Europe, Michel Duclos. Rôle essentiel d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut parler de renouveau du couple franco-allemand, d'une revanche de l'Europe? Est-ce qu'on peut imaginer désormais enterrer le débat idéologique hors sol sur le point de savoir si l'existence de l'Union européenne est pertinente? Et enfin, cette mutualisation de la dette européenne, c'est un acte démocratique?
Alors, mon analyse personnelle, mais qui est, comme toute analyse, est biaisée, bien sûr, c'est que l'Europe qui se dessine là, sous nos yeux, c'est une Europe des intérêts. C'est une Europe où l'industrie automobile allemande explique à Merkel, si on perd l'Italie du Nord, on perd des filières importantes de fabrication de composants de nos voitures et on perd un marché important. Et c'est pas l'Europe, j'ai vécu en Allemagne au milieu des années 90, c'est pas l'Europe de Kohl ou encore moins d'Adenauer, une Europe des sentiments, des idéaux, etc. C'est une Europe concrète. Et je crois aussi que les Italiens, les Espagnols, effectivement, peut-être qu'ils ne porteront pas entièrement le plan de relance au crédit de Bruxelles, mais quand même, ils comprendront que là, en tous les cas, ils ne pourront plus dire, comme c'était le cas ces dernières années, que tout est de la faute de Bruxelles, si vous voulez. Et il faut quand même faire confiance au bon sens des peuples. On a souvent parlé d'une refondation de l'Europe, mais à chaque fois, c'était sur la base de projets grandioses. Là, il y a une refondation discrète, implicite, sur des bases beaucoup plus réalistes. Et de ce point de vue-là, oui, moi je trouve que c'est un changement important. Alors, il se trouve qu'en même temps, l'argent qui va être dépensé va l'être, comme vous le savez, beaucoup sur des projets d'écologisation et de numérisation. Alors, effectivement, au détriment malheureusement de la défense... Ou peut-être, ça reste à voir, mais du fonds de recherche, par exemple. Donc, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Mais malgré tout, l'orientation générale est celle, encore une fois, d'une nouvelle identité de l'Europe. Et Macron, effectivement, remporte là son premier grand succès de politique internationale, en fait, en pratique. Il le fait après avoir eu beaucoup de difficultés à convaincre les Allemands pendant 3 ans. Et là, enfin, il a trouvé des partenaires. Est-ce que ça va durer? Écoutez, comme diplomate, j'ai un peu tendance à penser que les intérêts, c'est quand même la meilleure base.
Vous pensez à la succession d'Angela Merkel. Alors, les Allemands, qui, on peut le rappeler, ont aussi leur intérêt dans cet accord, bien compris,
voilà.
Michel Duclos.
Et donc, pour moi, les intérêts, c'est quand même la meilleure base pour une solide alliance ou pour un solide partenariat. Donc, je pense que ça peut continuer. Et puisque nous aurons la présidence de l'Union européenne
en 2022,
je pense que tout notre souci, ça doit être avant tout de nous caler sur cette avancée concrète, pratique, faire en sorte que ça marche, parce que pour l'instant, après tout, on n'est pas complètement sûr que ça marche. Ça doit être ça, notre priorité absolue. Et n'ajouter à cette priorité absolue que quelques projets qui, là aussi, correspondent à des vraies préoccupations des Européens, par exemple en matière de frontières et d'immigration.
Alors, trois pays, on ne va pas passer toute l'émission sur l'Europe, mais peut-être on va terminer avec cela. Bruno Tertrais, trois pays vont principalement bénéficier de cet accord, l'Espagne, l'Italie et la France. La France qui, c'est ce qu'a révélé finalement la pandémie, se retrouve aujourd'hui classée dans les pays de l'Europe du Sud, d'où peut-être aussi cet exploit de cet accord avec ce renouveau du couple franco-allemand, je veux dire cette sorte de grand écart que fait Emmanuel Macron, Bruno Tertrais. Après ça, on parlera des questions de l'impact sur les questions de défense.
Je pense que le grand écart de la diplomatie française, il est permanent et il est consubstantiel à la fois au positionnement géographique et historique de la France en Europe et par ailleurs consubstantiel également au fait que la France soit un des pays membres permanents du Conseil de sécurité et un des grands pays de la construction européenne. Et donc ce grand écart, il est permanent, mais c'est vrai que qui mieux qu'Emmanuel Macron pouvait le réaliser, puisque lui, toute sa trajectoire politique, d'une certaine manière, est fondée sur le grand écart ou sur la réconciliation. Donc la France puissance d'équilibre, c'est un slogan cher à nos diplomates. Je trouve là plutôt une bonne illustration, même si peut-être parfois ce slogan un peu vide de sens, ou en tout cas assez creux dans d'autres domaines dont nous reparlerons peut-être.
Alors, impact sur les questions de défense, Michel Duclos, voilà, cet argent dans le cadre de cet accord, tout le monde ne voit pas du meilleur œil ce qui va se passer, et l'industrie européenne de défense va être impactée. Bruno Tertrais.
Juste un mot là-dessus. On fondait de grands espoirs, enfin les Européens, dont les Français, fondaient de grands espoirs dans un saut quantitatif sur l'Europe de la défense qui aurait vu le fameux fonds européen de défense, un fonds de recherche et développement dédié à la défense, et donc qui irait à la consolidation de cette fameuse autonomie stratégique européenne que les Français appellent de leur vœu. Et ce fonds qu'on espérait supérieur à, qui aurait pu être de l'ordre de 10-15 milliards, sera finalement simplement de quelques milliards. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'autonomie, pas seulement de la défense, mais de tout ce qui va avec la défense, énormément de technologies duales aujourd'hui. C'est l'autonomie stratégique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. C'est ça l'enjeu. Alors, c'est vrai qu'on va continuer à investir dans le numérique parallèle. Mais tant qu'on a toujours cette dépendance dans un certain nombre de secteurs, notamment pour les Allemands, mais aussi parfois pour les Français, dans un certain nombre de secteurs clés, de matériel clé, d'équipements importants liés à la défense, l'Europe ne sera jamais totalement autonome. Donc on va dire que c'est un petit regret par rapport à ce qu'on aurait pu espérer il y a seulement 2 ans. Mais ça ne veut pas dire que l'Europe de la défense s'arrête, elle continue à se construire au jour le jour à travers de multiples petites initiative.
Vous écoutez RFI, Marie-France Latin.
Alors, on va maintenant balayer un peu le spectre et tous les sujets particulièrement importants pour la politique étrangère de la France. Michel Duclos, pour commencer tout de même, dans l'étude que je citais en introduction et que je rappelle, un virus clarificateur, l'impact du Covid-19 sur la politique étrangère de la France, vous dites que la pandémie est une épreuve de faiblesse et non une épreuve de force, et qu'aucune puissance ne sortira renforcée de la crise, mais que certaines seront plus affaiblies que d'autres. Les BRICS mal en point, mais il y a les contre-modèles, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, qui ont le vent en poupe.
Voilà, alors l'épreuve de faiblesse, c'est une formule que j'ai empruntée à Bruno Tertrais, en le citant d'ailleurs, parce que je crois qu'effectivement, encore une fois, on ne sait pas comment ça va se terminer, ça ne se terminera pas vraiment d'ailleurs, parce que la pandémie va continuer encore pendant très longtemps, et quand elle s'achèvera, elle sera relayée par d'autres formes de maladies ou de désastres quelconques. Mais ceci étant dit, effectivement, on peut penser que ça modifie les rapports de force. Et que, grosso modo, ça change d'abord le rapport de la Chine au monde, ou du monde à la Chine. On savait que la Chine était devenue très puissante. Elle a fait quand même une démonstration qui fait qu'aujourd'hui, ça ouvre les yeux de beaucoup de gens. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est clair qu'il y a des pays qui vont souffrir plus que d'autres. Je pense par exemple aux pays producteurs d'hydrocarbures, surtout quand ils sont mal gouvernés. Quand ils sont bien gouvernés, ils pourront peut-être s'en tirer, mais pour l'Iran ou pour la Russie, c'est quand même un pas supplémentaire dans un processus d'affaiblissement. Le Brésil, qui pouvait apparaître effectivement parmi les BRICS ou l'Afrique du Sud comme étant des puissances montantes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Inversement, les contre-modèles asiatiques, qui sont contre-modèles par rapport à la Chine, mais aussi par rapport aux vieilles démocraties industrielles, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Taïwan, bien sûr, ont le vent en poupe. Alors, c'est peut-être une question de perception seulement, mais dans les relations internationales, les perceptions comptent beaucoup. Et donc, l'une des révélations de la crise, c'est ce déplacement vers l'Indo-Pacifique, que naturellement nos dirigeants avaient pressenti, anticipé d'une certaine façon, mais qui aujourd'hui se cristallise à l'occasion de la crise. Je dois dire aussi que parmi les changements importants, il y a les élections américaines. La réélection de Trump paraissait plus ou moins assurée. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et de surcroît, les États-Unis connaissent une épreuve terrible, une sorte de crise identitaire. Et donc, l'Amérique qui va sortir non seulement des élections, mais qui va sortir de la crise, sera une autre Amérique. Et le rôle qu'elle jouera dans les affaires du monde va modifier considérablement le bilan que l'on pourra tirer un jour de l'impact de la crise sanitaire sur les rapports de force dans le monde.
Alors, les États-Unis qui seront précisément le sujet de géopolitique demain dimanche. Bruno Tertrais, très rapidement sur les questions des preuves de faiblesse et preuves de force. Et puis après ça, on va revenir sur l'élection américaine, la relation avec la Russie, nos options.
Oui, je partage largement le diagnostic de Michel. J'ajouterais quand même un petit point de désaccord, peut-être en tout cas sur une nuance sur ce que vient d'exprimer Michel Duclos. Il me paraît un peu facile de parler de basculement vers l'Asie. Alors le basculement vers l'Asie et le Pacifique, nouveau centre du monde, moi j'ai entendu ça pour la première fois quand j'étais à Sciences Po en 1984. Hein. Donc il faut pas enterrer le vieux monde trop vite. Le couple euro-américain dont on parlera, il reste encore central dans la vie économique du monde. Et le basculement vers l'Asie, certes, peut-être, tout ce qui a été dit sur les modèles par Michel Duclos, je le partage totalement, mais attention, il y a un pays dont on ne sait pas du tout comment il va sortir de la crise du Covid-19, c'est l'Inde. Or, l'Inde est quand même un des 5 ou 6 grands pôles de puissance du 21e siècle, mais au moins de sa première partie. On ne sait pas du tout comment va en sortir l'Inde. Donc je crois qu'il faut faire un petit peu attention, on va se dire, l'Occident a mal géré, l'Asie a bien géré, non, la Chine a mal géré, à mon avis, comme tout le monde, je sais qu'on ne sait pas tout sur la manière dont la Chine a géré. Ce sont des petits pays d'Asie, mais assez divers, mais plutôt des modèles de démocratie un petit peu moins libérale dans leur mode de fonctionnement culturel que la plupart des démocraties occidentales, mais des vraies démocraties. La Corée du Sud, Taïwan, le Japon, ce sont de vraies démocraties. Attention, il y a aussi un pays qui l'a bien géré, en tout cas apparemment, c'est le Vietnam, qui n'est pas exactement une vraie démocratie. Donc, nous avions d'ailleurs essayé en commun, Michel et moi, de voir quels sont les types de pays qui se tirent le mieux du Covid-19, et malheureusement, nous avions été obligés de dire, ce qui est très rare d'ailleurs dans un papier de recherche ou de réflexion, dire, nous avons échoué à trouver des corrélations évidentes entre la réussite face à la Covid-19 et le type de gouvernance et de régime politique. Donc les dés ne sont pas encore lancés, les jeux ne sont pas encore faits, mais nous nous retrouverons sur l'idée selon laquelle ça va être davantage une compétition de faiblesse qu'une compétition de force, qui ne veut pas dire qu'elle sera moins âpre.
Alors quelques secondes pour terminer cette première partie d'émission. Autoritarisme, démocratie, Michel Duclos, finalement, la frontière n'est pas concluante pour les uns et...
En tout cas, c'est pas un critère sur l'efficacité face à la pandémie, comme vient de le rappeler Bruno, mais pour vous dire la vérité, le fond de ma pensée, dans un livre que j'avais dirigé qui s'appelle Le monde des nouveaux autoritaires, je concluais en parlant de la crise à venir du modèle autoritaire. C'est évidemment un motif d'espoir. J'en suis moins sûr aujourd'hui, non pas parce que le modèle autoritaire a fait la preuve de son efficacité, mais parce que les Chinois ont fait la preuve de leur détermination à le soutenir. C'est ça qui est vraiment une leçon importante.
Alors, détermination qui pourrait leur jouer des tours tout de même. On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission avec vous, Michel Duclos, Bruno Tartret. On vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la politique étrangère de la France. Nous retrouvons nos invités. Michel Duclos, ancien ambassadeur et conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur d'une note intitulée « Un virus clarificateur, l'impact du Covid-19 sur la politique étrangère de la France » et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et auteur, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, de « L'épreuve de faiblesse », un ouvrage sur les conséquences de la pandémie sur la géopolitique mondiale paru chez Gallimard. Michel Duclos, nous avons terminé la première partie de l'émission sur toujours la gestion de la pandémie. Est-ce qu'il y avait, selon les régimes politiques en place à la tête des pays, des régimes plus efficaces que d'autres, autoritarisme, démocratie, ce qu'on voit tout de même, puisqu'on doit parler des régimes autoritaires, la Chine avec la question de Hong Kong, les décisions prises récemment, tout cela commence tout de même à avoir des conséquences à l'échelle internationale, comme une limite ou une limite rouge qui était peut-être un pas franchir, en tout cas un durcissement, et on le voit au niveau du Royaume-Uni qui a pris des décisions concernant la 5G avec Huawei qui est interdite de séjour en Grande-Bretagne, et la France qui fait de même.
Oui, alors si vous voulez, il faut dire les choses très très franchement, très simplement, les agences de sécurité dans tous nos pays expliquaient au gouvernement que s'équiper pour la 5G avec Huawei, c'était pas raisonnable. Parce que c'était l'espionnage garanti, mais c'est pas raisonnable aussi parce que les données personnelles seraient ouvertes entièrement aux Chinois. Et puis il y a une troisième raison que j'explique dans cette note, c'est ce que j'appelle la coercition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, grâce à ces équipements, la Chine pourrait interrompre ou perturber profondément des pans entiers de notre vie, on se trouvait dans un rapport de force défavorable vis-à-vis de Pékin. Et donc, cette réflexion était entamée depuis longtemps, et l'Allemagne, la France étaient arrivées à des conclusions plus ou moins similaires, de pas dire non complètement ouvertement pour respecter l'amour-propre des Chinois et ne pas donner l'impression qu'on tordait les règles du jeu économique, mais de faire en sorte que fondamentalement, Huawei n'est qu'une empreinte limitée. Et là, la façon dont les Chinois se sont conduits, donnant l'impression d'une arrivée en force à la suite de la façon dont ils avaient jugulé la pandémie, ce qu'on appelait la diplomatie des loups combattants, le ton qu'ils ont adopté, fait que les gouvernements se sont sentis plus ou moins obligés de durcir et de dire carrément, bah oui, on peut pas faire confiance à ces gens-là. Et alors, les Britanniques qui avaient fait un choix un tout petit peu inverse, d'être un peu plus ouverts, au contraire, ont fait marche arrière, notamment du fait de Hong Kong. Ils sont particulièrement concernés pour des raisons historiques et ils ont éprouvé le besoin de marquer un coup d'arrêt. Mais fondamentalement, les grands gouvernements européens ont un peu la même attitude.
Bruno Tartrait, un commentaire sur la question de la Chine et de l'Europe.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir à quel point l'image de la Chine a pu se dégrader par la faute même des agissements et de la rhétorique des autorités de Pékin en 6 mois. J'ai l'impression que le centre de gravité du débat international sur la Chine a vraiment changé en 6 mois. Autrement dit, il y avait encore des débats, d'ailleurs parfaitement légitimes, sur le type de relation que devait avoir l'Europe d'une part, les États-Unis d'autre part, vis-à-vis de cette Chine de Xi, qui est quand même très différente de la Chine des années 2000. Et le centre de gravité du débat s'est déporté. On trouve de moins en moins de soutien dans les pays occidentaux du comportement, de la stratégie, et même du coup des entreprises chinoises. On voit la Chine qui semble paniquer. Il y a une nervosité chinoise évidente, à la fois à l'intérieur et dans ses agissements extérieurs. Et un pays comme la Chine, quand il est en mode panique, comme on dit aujourd'hui, ça n'est pas très beau à voir. Du côté australien, du côté indien, la grande divergence est en train de se faire. C'est pas une bonne nouvelle. Il faut pas souhaiter une nouvelle guerre froide. Puis ça aura aussi un coût économique. Mais tout ça, c'est quand même très largement, alors même s'il n'y a pas de responsabilité unique, pour moi, il est clair que les agissements, la posture, le discours de la Chine depuis 6 mois, tout ça a causé finalement vraiment une accélération formidable et un déport du débat vers la séparation vis-à-vis de la Chine. Alors on peut dire que les Américains veulent une nouvelle guerre froide, qu'ils rêvent d'une nouvelle guerre froide. Franchement, j'y crois pas une seconde. Je crois surtout que les Américains ont essayé véritablement dans les années 90 et 2000 d'avoir une Chine partenaire, un actionnaire responsable, comme on disait à l'époque, de la mondialisation, et qu'ils constatent que c'est un échec, cette stratégie est un échec.
Alors, on va parler des États-Unis, Michel Duclos. On reviendra sur, on parlait des agissements de la Chine. À vous écouter, Benoît Tartrès, je pense à la Turquie qui a profité aussi de cette pandémie pour agir, et en particulier, et pas seulement, en Libye. Michel Duclos, l'élection présidentielle américaine, vous le disiez, réélection de Trump, plus incertaine qu'avant la pandémie. Néanmoins, quelle que soit l'issue du scrutin, les choses ne devraient pas beaucoup changer, en ce sens que la compétition entre les deux nouveaux grands restera l'axe de de la politique étrangère américaine. Les deux nouveaux grands, c'est les États-Unis et la Chine.
Oui, c'est une banalité de le dire, mais c'est comme ça. Ça va être effectivement un paramètre structurant dans le monde pour les années à venir. Je dois dire cependant qu'il ne faut pas tomber non plus dans le travers qui consiste à dire voilà, il y a une rivalité sino-américaine et ça concerne pas l'Europe, ou alors l'Europe doit être équidistante. Vous voyez, là aussi on retrouve des schémas de la guerre froide. La Chine, c'est pas seulement le problème des États-Unis, c'est aussi le problème de l'Europe et plus généralement de tous ceux d'entre nous qui sont attachés aux institutions libérales.
Aux institutions multilatérales, je pense précisément à la place particulière de l'Europe. Je pense au climat et sa gestion.
Sur le multilatéralisme, qui est effectivement dans une crise profonde. Dans ma note, je le mets sous forme de point d'interrogation, mort cérébrale, en écho au président de la République. Et là, je crois qu'il faut avoir une vision à long terme. L'affaiblissement, parce qu'on a dit que c'était une épreuve de faiblesse, le fait que tout le monde sorte un peu groggy de ce qui est en train de se passer en ce moment, est plutôt une chance pour le multilatéralisme, puisqu'il y a un espoir qu'un jour, les Russes, les Américains et les Chinois se rendent compte qu'à la fin des fins, il y a des sujets sur lesquels, malgré tout, c'est quand même préférable de jouer la coopération internationale et de passer par les institutions internationales.
Alors, là, je suis beaucoup plus pessimiste que Michel Duclos sur ce point. Je pense que le multilatéralisme, rêve français, rêve européen, rêve aussi de ceux qui se voient comme étant plus faibles que les grands prédateurs que sont la Chine, les États-Unis, la Russie, peut-être la Turquie un jour. Faut pas se faire d'illusions. Il y aura un multilatéralisme d'intérêt et non pas d'idéaux, mais ce multilatéralisme-là, dans le domaine du climat, par exemple, vous en parliez à l'instant, la France dit sans cesse l'Europe a besoin de la Chine pour faire des deals sur le climat. Mais je crois que si la Chine d'aujourd'hui doit choisir entre son intérêt immédiat qui est de garantir sa croissance économique pour le bien-être de ses citoyens, pour pas que le mode de gouvernement soit mis en cause, les objectifs climatiques de la Chine, je pense qu'ils vont les remettre à beaucoup plus tard. Et nous avons toujours tendance à penser, surtout nous Français d'ailleurs, que mais tel pays va faire cela puisque c'est dans son intérêt. Alors d'abord, on adore dire, on prétendre qu'on connaît les intérêts des autres mieux que eux-mêmes ne définissent leurs intérêts. Et ensuite, faut pas oublier que le premier intérêt des régimes autoritaires, c'est de se maintenir au pouvoir, quitte à ce que les solutions climatiques prennent quelques décennies de retard.
Michel Duclos, pour parler de la France, vous dites qu'elle souffre d'une relative solitude sur la scène internationale, qu'Emmanuel Macron manque d'alliés solides. Alors, au début de l'émission, on parlait de l'accord européen intervenu avec le renouveau dans le couple franco-allemand, Angela Merkel, qui est à la fin de son règne, entre guillemets. Quelles devraient être nos priorités en matière de politique étrangère? Vous appelez un réexamen de nos options. Qu'avez-vous en tête?
Alors, le fond de mon analyse, c'est de dire, nous Français, nous avons une carte mentale, stratégique et principalement géopolitique. Et donc, nous avons une capacité d'intervention militaire et nous faisons face à un certain nombre de crises dans notre environnement, notamment au Proche-Orient, au Levant, au Sahel, etc. Et c'est un peu la façon dont nous concevons notre rôle dans le monde. Alors, naturellement, il faut apporter plein de nuances, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais malgré tout, c'est un peu une grande tendance. Or, l'une des leçons de cette crise, c'est qu'il faut maintenant se déplacer vers l'Asie, comme on l'a dit, mais aussi vers ce qu'on peut appeler la géoéconomie, c'est-à-dire les questions des filières de production, de la compétition technologique, de l'accès au marché, des choses que nous faisons naturellement, mais qui ne sont pas quand même dans l'ADN de notre diplomatie. Et alors, le vrai dilemme pour la France, c'est qu'en même temps, on ne peut pas passer de l'un à l'autre, parce que les menaces continuent à exister. Le terrorisme, les crises, la Russie, sont toujours là. Donc, il faut essayer de concilier les deux, et pour cela, il faut s'en donner les moyens, il faut accroître les moyens de notre action extérieure. D'où la tribune des 6 directeurs de think tank en faveur du budget du Quai d'Orsay et plus généralement de l'action extérieure. Et il faut aussi se trouver le plus possible des partenaires et des alliés plus solides que ce n'est le cas aujourd'hui, où avec Trump, par exemple, on n'a pas effectivement un allié formidable.
Le budget du Quai d'Orsay, qui on peut le rappeler, et je parle sous votre contrôle, c'est 1%
Oui. Moins d'un pour cent.
moins d'un
Moins d'un
pour
pour
cent
cent.
du budget de l'État.
Oui.
Un commentaire, Bruno Tintret?
Non, nos deux think tanks ont signé cette tribune, donc
La
on la
Fondation pour
pousse.
la recherche stratégique d'un côté,
Et
je rappelle, et
l'Institut
l'Institut Montaigne
Montaigne?
de l'autre.
Non, donc on est forcément d'accord là-dessus. Non, si vous voulez, il y a un décalage évident entre l'importance de la diplomatie et le coût de la diplomatie. La diplomatie ne coûte pas cher. Or, comme les diplomates sont très mauvais lobbyistes, ils ont pas beaucoup de gens pour défendre leur cause dans les arcanes politico-administratives françaises. Et finalement, très honnêtement, je le dis d'autant plus librement que je ne suis pas diplomate, finalement, on peut se demander comment et pourquoi ce déclin numérique et budgétaire de la diplomatie française est passé finalement quasiment sous silence en permanence. Mais c'est tragique et la diplomatie, ça fait quand même partie des leviers de l'action extérieure de l'État sur lesquels un tout petit peu d'argent peut faire beaucoup. Alors, je dirais aussi que c'est la même chose pour les think tanks d'une certaine manière. Nous ne coûtons pas cher et nos idées peuvent changer le monde. Bon, c'est un petit peu ambitieux, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on espère le voir.
Donc on l'a compris avec ce que vous avez dit précédemment, Michel Duclos, il faut superposer la géoéconomie à la géopolitique. J'aimerais qu'on parle de deux pays. Le premier, c'est la Russie. On voit Emmanuel Macron reprendre son dialogue stratégique avec la Russie. Quel risque y voyez-vous? Et puis la question de la Turquie. Michel Duclos.
Alors, je suis un diplomate professionnel, j'ai passé 4 ans à Moscou et naturellement, je crois qu'un pays comme la France doit parler à la Russie. Et là, probablement, il y a des raisons supplémentaires de le faire puisque la Russie va sortir groggy de cette affaire. Elle est de plus en plus dépendante de la Chine et il faut essayer effectivement de lui tracer d'autres perspectives qu'un accroissement de sa dépendance à l'égard de la Chine.
Quelle hubris, pardon, cher Michel, mais quelle hubris de la diplomatie française de penser que c'est à nous de tracer le chemin. Je trouve que c'est pour avoir un petit peu de débat entre nous. Je me demande s'il n'y a pas là une forme d'orgueil français qui pense que c'est nous qui allons tracer une voie pour la Russie
Non,
dont
mais
elle n'avait pas idée.
ayant dit cela, je m'empresse d'ajouter que je ne crois pas que Poutine puisse être l'homme d'un retournement du logiciel russe.
Pourtant, il est là pour un certain temps,
Et
donc
oui,
les
mais le
choses vont
fait
être...
même justement qu'il ait fait cette espèce de petit coup d'État constitutionnel pour devenir une sorte de président à vie montre bien qu'il n'entre pas dans la catégorie des interlocuteurs avec lesquels on puisse nouer une vraie relation de confiance. Et donc, je vois l'initiative du président comme un investissement pour le long terme. Mais dont il ne faut pas attendre de résultats immédiats et dont il faut veiller à ce que le coût ne soit pas élevé. Et c'est le point que je notais dans l'interview que vous avez cité tout à l'heure. Si pour aller faire des risettes à Poutine, on se fâche avec nos partenaires européens au moment où justement tout repose sur un plan de reconstruction de l'Europe où on a besoin de l'unité des Européens, là, on prend un risque disproportionné.
Et là, les partenaires européens, c'est surtout la Pologne, la Tchéquie.
Oui, mais même l'Allemagne. Vous savez, les Allemands n'ont pas apprécié nos initiatives. Et en Allemagne, il y a tout un courant qui est très fort, pro-russe. Et si nous, Français, nous ne faisons pas attention, on donne un signal à ce courant pro-russe en Allemagne. Or, pour nous, ça reste un jeu diplomatique. Pour eux, c'est beaucoup plus profond.
Alors, Bruno Tertrais, Michel Duclos évoquait la question de confiance avec Poutine. Est-ce que cette question se pose aussi avec M. Erdogan, le numéro 1 turc ?
Elle ne se pose plus. Si certains dirigeants européens, y compris peut-être le président français, espèrent encore avoir une relation de confiance personnelle avec Vladimir Poutine, à mon avis à tort, mais peu importe. En tout cas, ça n'est probablement pas dans l'esprit de la plupart des dirigeants européens s'agissant de M. Erdogan. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, alors d'abord, comme on dit souvent depuis 6 mois, pendant la crise, les crises continuent, on a vu la Turquie, pas seulement par opportunisme, mais parce que c'est une vraie stratégie de sa part, accroître la puissance de ses leviers d'action en Méditerranée, à la fois en mer et en Libye. Je pense pas que ça soit lié au Covid, c'est plutôt simplement, on continue une stratégie bien construite. Et on a vu surtout, du côté français, on a vu là un raidissement du langage français extrêmement net, puisque M. Macron a quand même dit, a parlé de comportement criminel de la part d'un allié de l'OTAN, c'est quand même d'un allié de l'OTAN à un autre, c'est quand même assez rare. Il y a guerre d'ailleurs contre la Grèce et la Turquie dans les années 70 qu'on a vu de tels affrontements. Et j'ai l'impression que quelque part, le président Macron, c'est presque comme s'il cherchait à valider son récit sur la mort cérébrale de l'OTAN, puisqu'il considère que, même si c'est pas le champ d'action de l'organisation militaire, les affaires méditerranéennes, libyennes, c'est pas l'OTAN, c'est l'Alliance Atlantique. Mais je crois qu'il essaye de mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire, il estime que pour les Européens, un pays comme la Turquie ne peut plus aujourd'hui être un allié au sens militaire du terme. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que vous avez quand même, dans ce jeu en Libye, là, vous avez plutôt l'Italie et plutôt du côté de la Turquie. Enfin bon, voilà, c'est pas bloc contre bloc. Mais on a quand même un grand sujet turc en ce moment, qui est dans notre voisinage, dans le voisinage immédiat de l'Europe, pose un certain nombre de questions sur lesquelles nous, Français, nous sommes pas toujours blanc-bleu, comme on dit. Voilà, on a fait des choix discutables. Mais il y a un problème avec la Grèce, qui est de plus en plus aigu en mer. Il y a des problèmes avec Israël, Chypre, le partage du gâteau gazier en Méditerranée orientale, si vous voulez. Et évidemment, cet affrontement-là, quasiment de deux groupes en Libye, et là, on est dans des camps opposés avec la France. Donc ça, ce raidissement de la diplomatie française face à la Turquie, ça vient d'action turque, mais c'est aussi, pour moi, un choix politique délibéré de la part du président de la République.
Et la Turquie qui, peut-être, nous fait payer sa non-entrée au sein de l'Union européenne. Michel Duclos, je me tourne vers vous. J'avais encore, évidemment, plein de sujets que j'aurais souhaité aborder. Peut-être revenir sur l'élection...
On pourra faire une autre émission.
Sur l'élection américaine, mais avec grand plaisir. Sur l'élection américaine, avec l'intensification de la rivalité sino-américaine, est-ce qu'elle justifie que l'attention particulière soit portée à une redéfinition du contrat transatlantique après les élections de novembre ? On en a dit quelques mots. Alors, question, priorité à l'Indo-Pacifique ?
Oui et non, parce que je dirais priorité à l'Europe et priorité au transatlantique. Parce que dans l'état que j'ai décrit, non pas de faiblesse, mais de dilemme profond pour notre diplomatie, si on perd les Américains, si je puis dire, on pourra pas aller très loin. Je pense à nos engagements au Sahel, au traitement de la Turquie, à de multiples problèmes, même au climat, au multilatéralisme. Si on a une chance de ramener les Chinois à une diplomatie du changement climatique, ça passera par les États-Unis, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour la COP 21 où Obama avait amené les Chinois. Donc ça paraît un peu étonnant dans le débat français où on aime dire que ce qui compte c'est l'indépendance, etc. Et j'adhère tout à fait naturellement à cette optique. On doit défendre nos intérêts, on doit miser sur la souveraineté européenne, mais malgré tout ça passe par un renouvellement du contrat transatlantique.
Bruno Tertrais, très rapidement.
Je suis d'accord. Il y a un récit français qui est très courant, qui consiste à dire, de toute façon, les Américains s'en vont, les Américains ne seront plus là, il faut que l'Europe... Ce récit-là, on l'entend depuis 1958. Attention à ne pas tomber, et là, c'est pas forcément un désaccord avec Michel Duclos, ne tombons pas dans ce travers qui consiste à prendre nos désirs profonds, en fait, parce qu'on Quelque part, on aimerait bien être enfin seul, mais les diplomates français ne peuvent pas se passer des États-Unis. Les Américains resteront engagés en Europe, mais c'est vrai que le jeu va être tout de même très différent selon que ce soit Biden ou Trump.
Merci Bruno Tertrais. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de l'épreuve de faiblesse chez Gallimard, un ouvrage sur les conséquences de la pandémie sur la géopolitique mondiale. Et Michel Duclos, ancien ambassadeur et conseiller spécial à l'Institut Montaigne et auteur d'une note intitulée « Un virus clarificateur, l'impact du Covid-19 sur la politique étrangère de la France ». Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. Demain, nous ferons un point sur la campagne pour les élections présidentielles américaines.